Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine dans Univox, retour sur le 39e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et la série d'émissions réalisées ici à Radio Campus Clermont, court-métrage. Au menu de cette demi-heure, des étudiants en master gestion de projets culturels en art du spectacle, qui nous parleront d'audio-description. Retour également sur Anatomie du Labo, en compagnie de Marc Brunier-Mestas et de Ludovic Chavarro. Également, deux membres du jury étudiant viendront s'exprimer à notre micro. Et on terminera avec un reportage à l'atelier L'école éphémère du cinéma.
Continuons sans plus attendre. Nous sommes avec Simon et Judith, étudiants en Master 1 de gestion de projets culturels. Ils ont pour mission d'entretenir la médiation entre publics voyants et moins voyants. C'est pour cela qu'ils nous parlent d'audio description. On vous en avait déjà parlé et on vous rappelle que la dernière séance du cours en audio description a lieu à la Jetée à 21h vendredi. Après-demain, vendredi 10. Donc bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas venu seul. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre invité?
Alors on est venu avec Monsieur Bruno Dahl, qu'on remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Alors vous avez presque tout dit, oui, on est en master gestion de projets culturels, en art du spectacle exactement, et on a cette année un projet, on travaille, alors pas exactement les publics non-voyants et moins-voyants, mais c'est quand même joliment dit, les publics, donc en fait on doit développer la médiation culturelle et faire le lien entre des structures qui sont sur Clermont, donc toutes les structures, qu'ils soient des structures et associations qui visent un public déficient visuel ou pas, juste qu'ils soient dans le milieu culturel, et donc développer une médiation culturelle vers ces publics déficients visuels, tout en assurant une mixité avec les publics voyants, en général en fait. Et donc on est venu aujourd'hui accompagné de Bruno Dahl, qui est à l'origine du renouveau des séances en audio description qui ont lieu au Festival du court-métrage, et qui a également fait rencontrer nos commanditaires, ceux qui donc nous ont commandé cette année à faire ce projet culturel dont on est chargé, qui se rencontraient grâce à lui, et qui les a d'ailleurs aussi beaucoup aidés, il me semble, à développer ce projet-là. Mmh.
Eh bien, peut-être que déjà vous pouvez vous présenter.
Alors Bruno Dahl, je suis enseignant en cinéma audiovisuel. C'est effectivement parce que je suis enseignant en cinéma audiovisuel que l'idée de l'audiodescription est venue. Je reste persuadé que l'audiodescription, c'est avant tout une histoire d'image et non pas de littérature. Il ne s'agit pas de raconter un film. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, l'audiodescription, c'est une petite voix qui vient s'insinuer dans les silences d'un film. Cette petite voix, elle a pour but de décrire des actions muettes. Qu'est-ce que c'est qu'une action muette au cinéma ? C'est une action que l'on ne peut pas comprendre uniquement par l'image et uniquement par la bande-son. Voilà. Donc, il s'agit pour nous de décrire cette petite partie et rendre surtout accessible le film aux malvoyants et aux aveugles.
Vous avez dit pas de littérature, mais il y a quand même les mots ont quand même vraiment une importance.
Voilà,
dans
absolument. Les mots ont une importance, mais ils ont une importance dans le respect des intentions du réalisateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans le superflu, on ne va pas dans l'émotion. Il faut vraiment choisir les mots de manière à ce que ça soit le spectateur aveugle qui se fasse sa propre émotion. On doit rester le plus neutre possible. On ne doit pas utiliser de termes techniques, gros plan sur les yeux, ça ne veut rien dire pour quelqu'un qui n'a jamais vu. Et il ne s'agit pas de dire l'homme est en colère, parce que ça, déjà, c'est une interprétation de notre part, et il faut le décrire autrement. Il faut dire il plisse les yeux, il tape de la main sur la table, et encore même pas, il tape de la main sur la table, ça s'entend. Donc il faut trouver véritablement les choses qui sont justes et ne pas trop en dire. Parce que la difficulté, c'est que si on en dit trop, un réalisateur qui a décidé qu'il y ait des silences, à un moment donné, parce que ce silence est important, si nous on le remplit par du texte, eh ben on va à l'encontre de son intention aussi. Donc il faut faire très très attention, et je crois que ce travail là que nous faisons dans un cadre de lycée, un cadre pédagogique, se fait marche bien parce qu'il se fait aussi avec des personnes malvoyantes, c'est-à-dire que mes élèves voyants travaillent avec des élèves non voyants, et on regarde au début un film ensemble et ils nous disent exactement où ça marche, où ça marche pas. Exemple, un film, c'était sur les heures blanches il y a quelques années, ça se passe au Québec, et nous on commence par Il neige. Et les élèves de l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, nous disent « Mais pourquoi vous dites il neige ? Hein, il faut bien le dire. Mais ça fait longtemps qu'on a compris qu'il neigeait. Mais comment vous le savez ? La neige, ça fait pas de bruit quand ça tombe. Non, mais les pneus des voitures, c'est pas des pneus de voiture sur la route. » Donc là, vraiment, on prend une claque parce qu'on se dit, mais voilà, ils comprennent énormément de choses et on n'a pas besoin de dire ça. Il faut garder le silence, il faut respecter l'intention du réalisateur.
Alors ce qui est intéressant, moi je trouve personnellement avec l'audiodescription, c'est que si la finalité, elle va être pour un public qui est déficient visuel, le processus de création, je sais pas, on peut appeler ça comme ça, je pense que le processus de création de l'audiodescription est un vrai travail qui concerne en fait toute personne qui s'intéresse au cinéma et à l'analyse filmique en général, puisqu'on peut, on se pose des questions plan par plan sur qu'est-ce qui est intéressant à rajouter, qu'est-ce qui est intéressant dans ce plan, tout en respectant les intentions du réalisateur qui sont parfois même des fois pas personnellement définies par le réalisateur lui-même. Des fois quand on fait certains films, c'est, ils ont des impressions, des choses comme ça, ils n'ont pas une idée définie, et en fait c'est un travail qui se fait avec tout ça, donc c'est là où c'est un réel travail pédagogique qui est vraiment super intéressant.
Il y avait une autre question qu'on avait évoquée déjà le vendredi matin où vous avez fait venir, c'est la question des couleurs pour un public malvoyant ou non-voyant, et puis la différence entre quelqu'un qui a déjà vu et qui ne voit plus, et quelqu'un qui n'a jamais vu et qui du coup n'a aucune notion de la couleur. Et c'est donc toutes ces questions de mots et d'employer le mot donc avec son sens profond, et de trouver exactement le bon mot qui va remplir peu de temps et qui va pourtant décrire toute à merveille la situation peut-être. Ça fait penser aussi à ce qu'on a reçu lundi, Anatomie du labo, qui était juste une trace. En un instant, il faut laisser l'image d'un film, et je trouve que ça assez bien en corrélation.
Univox.
Parce que l'anatomie du labo, il y a des artistes confirmés. Et aussi des jeunes gens qui viennent d'école. Cette année, il y a un CAP...
Il y a le SEPR de Lyon, il y a des élèves des Arts Déco de Paris, il y a la Martinière d'Hydro de Lyon, il y a des élèves de Glasgow, il y a des élèves des Beaux-Arts de Clermont, il y a des élèves des Beaux-Arts de Paris. Et comme dit Marc, on aime les faire travailler avec des gens beaucoup plus confirmés, comme Marc ou ses amis américains qui nous a présenté les
Américains. Le fameux ami américain. Bonjour Human Nurse. Et du coup, comment ça se passe là ? Comment sont choisis ces établissements ? C'est des établissements où vous enseignez, où vous avez déjà des gens un petit peu infiltrés ?
Je l'avais pas encore dit, mais voilà, je travaille depuis des années dans le cadre du festival avec le DMA de Cournon, DMA de cinéma d'animation. Et forcément, c'était naturel de leur proposer de participer à Anatomie du Labo, puisqu'ils participent à plein de choses, comme l'atelier. Je ne sais pas si vous avez déjà interviewé Jérôme Terce dans le cadre de l'atelier là, du festival.
Non, on a fait un petit retour sur l'atelier.
D'accord.
Mais non, il n'est pas encore passé à notre
micro. Donc voilà, le DMA de Cournon participe au festival depuis une dizaine d'années. Enfin, moins que ça, parce que je crois que le DMA n'a que 6 ans, excusez-moi. Mais voilà, c'était naturel de leur proposer cette participation.
Et du coup, comment ça fonctionne ? Là, du coup, dans les faits, il y a des étudiants à qui on demande de produire, mais est-ce que vous leur donnez les films ? Est-ce que c'est par rapport à un thème ?
Ils ont la chance de voir les films 2 mois avant les festivaliers. C'est-à-dire qu'il y a des projections à la jetée, il y a des projections sur les lieux des établissements. Ils ont cette chance de pouvoir les voir bien avant tous les festivaliers. Et donc, ils vont réagir graphiquement à ces films. Je ne demande pas à ce que soit fait un poster ou une affiche du film. C'est comme je fais beaucoup d'éducation à l'image au sein de la jetée, ce que je demande, c'est vraiment comprends-moi le film par un dessin, fais-moi un retour critique, comme si tu travaillais pour par exemple Télérama, montre-moi à quel point t'as compris ce film, mais tu me fais un retour par un dessin, une sérigraphie, une estampe.
Pas évident quand même, en une image, réduire un ensemble d'images.
Ah, c'est un exercice assez passionnant. En fait, il faut saisir l'univers directement du film. Et là, logiquement, ressort une image. Peut ressortir plusieurs images, mais souvent, il y a une image qui est phare, mais qui va regrouper tout l'ensemble du film. Et alors, il y en a qui ont de la chance parce qu'ils ont 2 mois pour travailler, et puis il y en a qui ont 1 mois. Pour les artistes, souvent, ils n'ont qu'un mois pour travailler.
Oui, mais même 2 mois, des fois, enfin, sur un sujet donné, enfin, pour les artistes, il y a toujours un processus quand même de création qui peut être plus ou moins lent, plus ou moins long. Et c'est vrai que là, ils ont la chance d'aller voir 2 mois à l'avant. C'est quand même un petit coup de pression à partir du moment où ils ont les films. Il ne faut pas trop qu'ils traînent non plus, quand même.
Ouais, c'est pas une expo classique, hein, effectivement. C'est plus une. Effectivement, si on devait faire une vraie exposition, je sais pas moi, comme Marc a eu une grosse exposition là il y a quelques années, qui a témoigné de tout son parcours, etc. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment une réaction très 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 rapide par rapport à une sélection, celle de cette année, celle de 2017.
Donc, il faut être hyper hyper réactif. Et en même temps, c'est vrai que ces jeunes gens sont hyper réactifs, ils produisent des choses assez incroyables, donc c'est tant mieux. Et ça montre qu'ils ont l'esprit vif.
À Lyon, par exemple, dans les 2 écoles lyonnaises, il y a eu. Les écoles nous ont permis de faire des workshops d'une semaine. Et ça, c'était un luxe incroyable. Et une des classes, en fait, c'était des élèves qui n'étaient pas destinés à créer, à devenir artistes. C'était des gens qui étaient en CAP de sérigraphe, donc qui étaient amenés à être techniciens. Et je leur ai dit, ben voilà, on va créer. Et ils m'ont posé la question, ils m'ont regardé bizarrement en me disant, mais on ne nous a pas dit qu'on serait destiné à faire
c'est
ça.
C'est un peu sale, ça, de créer.
Et eux, alors là, je ne suis pas là pour te donner des bons points ou quoi que ce soit, je ne suis, suis pas prof, je ne vais pas les noter, mais c'est vrai que j'ai passé avec eux une semaine incroyable. Enfin, c'était vraiment très, très émouvant. Et peut-être que dans cette classe, Anatomie a changé le destin de 1 ou 2 qui se sont dit, ah, peut-être que je pourrais partir dans un cursus créatif. Après ces études-là.
Ou même après, si forcément ils ne se lancent pas dans un cursus, peut-être que ça les aura marqués, qu'ils continueront finalement dans leur voie, mais qui secrètement aussi, peut-être personnellement, développeront un travail. C'est comme une graine finalement. Que...
Je l'espère.
Et du coup, beaucoup de productions sur. Ça fait que ça représente combien d'œuvres ?
Au total, on a 60 d'œuvres qui sont exposées à Camille Claudel. Il y a 20 d'élèves qui n'ont pas été au bout ou qui n'ont pas réussi à faire une œuvre assez aboutie pour être exposée. Voilà.
Il y a quand même une petite sélection, quand même.
Ah oui, mais ouais. En fait, quand on fait l'installation, l'accrochage, l'élève le voit tout de suite. C'est-à-dire que je lui dis, est-ce que ça te rend service d'exposer cette œuvre au milieu d'autres ? Et il dit non. Et c'est pas forcément un échec, c'est plus un... Bah, d'ailleurs, la plupart des élèves, l'année d'après, me demandent de recommencer dans un autre cadre. Oui. Donc pour moi, c'est pas un échec.
Non, ce qui est intéressant dans les travaux des élèves, c'est le... Sur la sérigraphie, je trouvais qu'il y avait un travail vraiment très pertinent de communication et hyper sobre, hyper efficace, avec un moyen d'affiche avec image coup de poing. Quoi. Moi, je trouve ça assez fort pour des élèves. Ils ont bien travaillé.
Pas mal d'œuvres produites, mais sur plein de films. Là. Du coup, c'est vraiment. Là, ils avaient le choix après sur les films, il n'y avait pas de trucs imposés. Je sais pas par rapport, genre une séance pour telle classe.
Alors, les artistes qui ont eu des sélections ont eu une contrainte, et c'est intéressant de travailler sous contrainte, c'est de ne regarder le film qu'une fois et de travailler qu'avec la mémoire.
Ah oui. Alors, on le rappelle peut-être à nos auditeurs, la mémoire, c'est un peu l'essence du cinéma, c'est-à-dire qu'un livre, on peut se replonger dedans, une œuvre, on peut la voir et la posséder. Un film, c'est que du mémoriel, c'est-à-dire quand on sort de la salle, qu'est-ce qui nous reste ? C'est la mémoire du film, ce qui a imprimé finalement notre mémoire. Donc effectivement, cette manière de faire est très cinématographique, en quelque sorte. Où je m'égare.
Non, c'est le cas. Et puis, là, c'est que les années précédentes, là, quand je projetais plusieurs fois le film, j'avais tendance à obtenir après des images et des illustrations d'une image du film, plutôt que le sens. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le sens du film. Plus qu'une belle illustration, un joli poster. Ça me plaît moins.
Allez, moteur ! Tu es prêt, là ?
Ouais, ça tourne toujours, quand tu veux.
9 sur 6B, première.
Allez, action !
Ça tourne ou ça tourne pas ?
Ça quand tu veux ?
Radio Campus.
En direct et en public.
Du Festival International.
Du court-métrage.
De Clermont-Ferrand.
Alors, Marine et David, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes tous les deux au jury étudiants nationaux. Déjà, quel effet ça vous fait? Vous êtes content de faire partie de cette grande aventure du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2017?
Eh bien, oui, c'est un honneur, on va dire, parce que c'est quand même un grand festival que propose Clermont-Ferrand autour du court-métrage. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à faire jusqu'à là, et on en a encore. Et je pense que ouais, c'est
une opportunité exceptionnelle pour nous de rencontrer beaucoup de gens et de découvrir la face cachée du festival que l'on connaissait déjà bien, mais en être seulement en tant que spectateur.
Donc du coup, depuis vendredi soir, la cérémonie d'ouverture, vous éclatez, quoi.
Oui.
Ah oui. Ah, oui.
Vas-y, Loïc.
Et du coup, pourquoi avoir choisi la sélection nationale? C'est pas un peu chiant entre nous?
Alors c'est pas nous qui avons choisi. Nous, on a juste candidaté pour être jury étudiant. Après, on a été répartis en national ou international. À titre personnel, j'ai jamais trouvé que les nationales étaient moins bien que les internationales. Les deux sont très bien.
Non, mais lui faites pas de confiance. Il a une mauvaise foi de toute façon.
Oui, voilà. Je répondrai pas plus à ce genre de questions.
Non, mais moi, si j'aurais pu choisir, j'aurais choisi labo. Mais bon, apparemment, il n'y a pas de jury étudiant en labo, donc c'est.
Et du coup, pour rappeler comment vous avez été sélectionné, justement, vous avez envoyé une lettre de motivation
Oui, lettre de motivation.
CV aussi.
CV, il fallait qu'on écrive une lettre qui parlait un peu de nos motivations, mais aussi de notre intérêt pour le cinéma, qu'est-ce qu'on aimait dans le cinéma, qu'est-ce qu'on n'aimait pas aussi. Et
voilà. Notre intérêt particulier pour le court-métrage aussi. Mmh. Et puis de la façon dont on se voyait vivre cette expérience en groupe au sein du jury.
Qu'est-ce que vous penseriez apporter, des choses comme ça?
Oui, voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il mettait vachement en avant aussi le travail en groupe, et ce qui est forcément un point important aussi dans cette expérience, parce qu'on est un groupe de 5.
On
ne
se quitte pas
de
toute la semaine, quoi. C'est voilà, tous les repas ensemble, toutes les séances.
Jusqu'à la délibération.
De 10h à minuit.
Il faut forcément... Mm-hmm.
Et est-ce que c'est compliqué pour vous de passer d'un point de vue de spectateur à celui d'un jury?
J'ai fait des expériences en tant que spectateur, mais j'ai déjà fait d'autres expériences en tant que jury étudiant dans d'autres festivals tels que Traces de Vie ou Vidéoforme. Du coup, c'est vrai que j'ai pas été trop plongée dans un univers que je ne connaissais pas. Ça a été plutôt simple. Enfin.
Oui, moi aussi, j'avais déjà eu une expérience en tant que jury étudiant dans un autre festival. Et de toute façon, le regard qu'on porte sur le film est le même, que l'on soit simple spectateur ou jury. Après tout, le jury n'est qu'un simple spectateur qui a l'opportunité de juger en plus. Mais notre regard ne doit pas changer, bien au contraire.
Et du coup, pour vous, le court-métrage, avant le festival, du coup, avant d'être noyé parmi, noyé entre guillemets, au visionnage de tous ces courts-métrages, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous par rapport à la prédominance du long-métrage actuellement dans le cinéma? Qu'est-ce que ça vous évoquait pour vous, le court-métrage?
D'accord.
C'est une autre forme d'expression. Souvent, c'est des réalisateurs jeunes que l'on voit qui, pour la plupart, n'ont que quelques années de plus que nous, en fait. Et donc c'est un moyen pour eux de rentrer dans le milieu, de faire des premiers essais de fiction, de documentaire, et donc de voir, et pour nous de voir de nouvelles choses et peut-être les talents de demain.
Et le court-métrage aussi, je le voyais comme forcément il est caractérisé par son format court, mais c'est un petit peu, c'est un challenge en fait, c'est faire passer une histoire sur une courte durée, et c'est vraiment établir un dialogue rapide. Et par rapport à un long métrage, le court métrage, je trouve,
à une
liberté, mais à aussi beaucoup plus des limites, des contraintes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de quelle manière le réalisateur va porter son projet. Et surtout en prenant en compte cette limite de temps.
Mais qui aussi, ça peut également justement enlever des limites, parce que le format court permet aussi d'utiliser une idée encore plus originale, parce qu'il y a moins besoin de construire une histoire qui tienne sur le long terme. Oui. On peut faire un court-métrage de seulement 10 minutes, et notamment sur la compétition labo, on voit les choses les plus originales et novatrices.
Donc pour les metteurs en scène, travailler leur mise en scène, essayer des nouvelles choses pour l'avenir plus tard, forcément.
Oui, mais aussi travailler la narration pour qu'elle puisse aller d'un point A à un point B de manière claire, concise, et que la fin soit... Bon, on peut parler de chute, mais il n'y a pas forcément une chute pour faire un bon court-métrage.
Et du coup, en parlant de réalisateurs, de metteurs en scène, vous avez pu en rencontrer ou même des acteurs des films, enfin vous avez pu discuter avec eux ou pas?
On en a croisé pas mal.
On a pu un tout petit peu discuter avec le jury professionnel national et surtout on a une rencontre qui est prévue avec eux à la fin du festival.
Voilà.
Après, on a plus croisé que vraiment eu l'occasion de discuter avec les réalisateurs, d'autant plus qu'on n'a pas trop le droit vu qu'il faudrait pas qu'on puisse discuter avec certains réalisateurs en compétition et pas d'autres.
Même si l'envie y est, on essaye de se restreindre un petit peu.
Ok. Moi j'avais juste une question, c'est de savoir, c'est un seul film que vous devez choisir parmi toute la sélection française du coup?
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il faut que ce soit à l'unanimité comme dans un tribunal ou pas?
Oui, a priori.
Alors,
faut qu'on arrive à se mettre d'accord. On a toute la journée de jeudi pour ça.
Voilà. C'est un peu plus compliqué en fait. Je pense que oui, c'est de toute façon ça va être à l'unanimité. Ça sera sur.
Faut que personne soit lésé quoi qu'il arrive.
Voilà, tout à fait. Mais ouais, ça va être une grande journée, je pense, oui. Jeudi.
Demain.
Oh là là. Et c'est demain.
Ça arrive
c'est
très demain. Vite.
Et du coup, il y a des films dont vous êtes sûr que vous mentionnerez pas puisqu'ils sont nuls et du coup ils n'auront pas de prix ou
hyper négatif.
Oh là là.
Non, non,
alors
mais
déjà, on part du principe qu'il n'y a rien de nul. Il y a rien de nul. Après, c'est que des avis personnels, de toute façon, mais on va pas pouvoir trop vous en dire là-dessus non plus. Enfin,
mais on est en tout cas très content du niveau de la sélection et de la ouais. qualité et la diversité de tous les films qu'on a pu découvrir tout pendant toute la semaine.
Et du coup, ça vous a fait combien de. Bon, peut-être pas de films au total, mais genre de séances 12
Il y avait 12 séances,
séances nationales.
5 films, donc on a vu 60 courts-métrages.
Oui, une soixantaine de courts-métrages.
Et donc ce sera à l'occasion de débattre demain. On vous retrouve peut-être vendredi la gueule en sang.
C'est possible. Après c'est possible.
C'est on ça. Vous souhaite bonne chance.
C'est vrai, bon courage pour demain, pour cette longue journée qui s'annonce.
Mais qui a fait le casting? Qui donc a fait le tracklisting? Qui du chef opérateur? Sans parler du sound designer.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes bien sur Radio Campus Clermont pour l'émission Court mais Trash. Fatou, animatrice de l'émission Gare à l'art, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es partie en reportage, toi, cette semaine?
Oui, pendant 5 jours. À l'atelier, l'école éphémère du cinéma, j'ai été projetée au cœur du secret de la fabrique d'un film. Atelier bruitage, mixage, modeling, effets spéciaux et réalité virtuelle, atelier musique de film, jeux d'acteurs, photos, habillage, maquillage, coiffure, mais aussi cinéma d'animation, réalité virtuelle, tournage et décor. Tout ça en partenariat avec Sauf qui peut le court-métrage. Ce sont environ 15 structures pédagogiques qui se sont côtoyées sur le site de l'école supérieure de commerce. Alors pour en citer juste quelques-unes, il y avait l'école d'architecture de Clermont, le Conservatoire Emmanuel Chabrier, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, le DMA du lycée René Descartes, enfin c'est très difficile de tous les citer, mais vous pouvez les retrouver sur le site www.atelier-filmfest.com. Voilà, je suis donc allée à leur rencontre.
Je suis Myriam, je suis étudiante à l'école d'architecture et j'ai participé à la construction du décor du plateau de tournage de l'atelier éphémère à l'école de commerce. On est à peu près 10 à avoir travaillé sur le. Enfin une quinzaine à avoir travaillé sur le décor et en fait on est 3 par jour toute la semaine et on s'occupe de tout ce qui est maintenance, si on a des morceaux qui tombent, s'il faut déplacer des choses.
Et la caméra, c'est quoi? C'est quoi comme caméra? Ça fait comme les séries américaines.
Je m'appelle Clément, j'ai 16 ans, je suis en deuxième année de CAP coiffure et donc on est ici pour coiffer les gens qui sont ici dans l'atelier. C'est la deuxième année consécutive, voilà, on coiffe surtout les acteurs qui viennent, on refait des retouches après sur le plateau et oui, tous les acteurs on s'occupe d'eux et on les maquille. Ça peut être très classique ou très extravagant. On peut proposer des choses et après si les réalisateurs et les acteurs sont d'accord, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Silence s'il vous plaît.
Très bien, c'est bon Pierre. Action!
Natacha,
Élise,
Léana,
on est en section photo, enfin bac pro.
En seconde, toutes les trois.
Donc c'est un trompe-l'œil. Donc c'est le décor, c'est un salon années 80 avec un dinosaure qui arrive. Donc ça fait un contraste. Et du coup, elle propose aux visiteurs de se mettre en scène avec des accessoires pour faire des photos.
Bonjour, je m'appelle Jérôme Montpied. Je suis en deuxième année de COP, c'est-à-dire en cycle orientation professionnelle au conservatoire Emmanuel Chabrier à Clermont-Ferrand. Donc là, nous sommes avec les élèves de local, donc l'école de cinéma suisse. Donc depuis deux jours, nous avons commencé à travailler des petits exercices. L'objectif principal, surtout pour les jeunes réalisateurs, c'est de travailler en fait avec les acteurs, c'est-à-dire vraiment faire la direction d'acteurs. Et pour nous, comédiens, c'est de faire une première expérience pour la plupart d'entre nous devant une caméra. Donc voilà, en général, les jeunes réalisateurs ont un petit peu de mal avec la direction d'acteurs parce qu'ils sont souvent sur leur cadre. Il faut que l'image soit correcte, que ce soit bon. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup travailler devant la caméra. Plus tard, si j'ai possibilité d'être vraiment comédien professionnel, je voudrais faire les deux, quoi, théâtre et cinéma. Le théâtre, ça permet vraiment de travailler l'état. Et le cinéma, à cause des plans qui obligent, on travaille vraiment le détail comme je viens de le faire là. Donc j'ai travaillé un homme qui n'arrive pas à dormir. Donc ça a l'air de rien, mais il y a tellement de choses à jouer dans ça. Il n'y a pas le même rapport aussi, donc théâtre-caméra, parce que la caméra, c'est vraiment quelque chose qui se fixe. Donc en fait, on peut jouer des états vraiment minimalistes, en fait, donc avec des micro-mouvements, alors qu'au théâtre, devant une salle de 200 personnes, hein, c'est quand même une grande salle, faut tout amplifier. Voilà, donc on ne joue pas de la même manière.
Alors bonjour, je m'appelle Thomas Salvador, je suis réalisateur de films et scénariste et j'anime ici donc un atelier de direction d'acteurs avec des étudiants de l'ECAL, qui est l'école d'art suisse mais du département réalisation, donc à Lausanne, et on travaille donc avec les 10 étudiants de première année et on a la chance d'avoir avec nous 11 acteurs du conservatoire de Clermont-Ferrand. Donc l'idée c'est de faire travailler ensemble des réalisateurs et des acteurs parce que en fait, le temps de travail avec les acteurs, qui est pourtant ce qui se voit le plus dans le film, au final, est
9 sur 6 B, première.
Présent. Donc voilà. Donc là, ce sont de jeunes réalisateurs. Ils ont tous un peu peur des acteurs. Même moi, à plus de 40 ans, j'ai encore, non pas peur des acteurs, mais c'est vraiment un mystère. Et c'est vraiment un mystère passionnant. Comment ils réagissent les uns les autres face à une situation, selon leur humeur, c'est vraiment une science qui est absolument loin d'être exacte et peut-être même loin d'être une science. Donc là je les fais expérimenter plein de cas de figure en fait. Donc je leur fais faire un peu un travail sur du burlesque, sur du corps, sur de l'improvisation, sur juste de la présence avec des activités, des actions très très simples. En fait, je leur fais surtout faire ce qu'ils font peu par ailleurs ou ce qu'ils négligent, à savoir autre chose que parler. Et c'est vrai que sauf que moi je fais des films avec très peu de dialogue aussi, où il y a très peu de psychologie, et on apprend les personnages en les regardant et en les regardant évoluer beaucoup plus qu'en les écoutant parler d'eux, quoi. Voilà, donc je trouve ça important. Et par ailleurs, donc il se trouve que je ne suis pas acteur, mais j'ai pris l'habitude de jouer dans mes films, donc je joue dans mes courts-métrages et dans mon premier long-métrage, donc qui s'appelle Vincent n'a pas d'écailles. Alors déjà, mes films, ils ont une dimension physique aussi très minimale, et ça, il se trouve que moi, j'ai une pratique physique comme ça, un peu d'acrobatie, de tout ça, qui fait que déjà, je sais faire ça et que ça me plaît de faire ça. Et après, je me sers de ma maladresse de non-acteur aussi pour le personnage. Voilà, dans le film Vincent, le héros est un peu encombré par son don, il a la crainte du regard des autres, et vraiment j'ai pas du tout composé, parce qu'en fait l'état du personnage était un peu mon état de moi réalisateur sur le tournage, donc comme je suis avant tout réalisateur, je me sers de cet état pour le travail d'acteur.
Alors silence s'il vous plaît.
Alors ça tourne.
Ça tourne.
Action.
Coupé. Et vous êtes toujours en direct du festival de courts-métrages. Merci Fatou pour ton reportage.